Communion, déjà, recevons ce qui nous est donné en ce beau jour. Et ce qui nous est donné, c'est la grâce, c'est l'esprit et c'est la paix. Nous nous recueillons un bref instant pour demander à Dieu la bénédiction pour ce petit moment, pour cette heure dans notre vie, pour lui demander l'inspiration dans la mise en écoute des écritures bibliques de ce jour, pour lui demander aussi la ferveur de chanter les chants qui nous seront proposés. Alors oui, recueillons-nous un bref instant de silence fugitif. Et je vous invite à vous relever pour déjà commencer à, ensemble à louer le Seigneur sur votre feuille. Vous avez ensemble la partie louange, et nous allons la dire ensemble. C'est bon de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, de le remercier pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. C'est bon d'être les invités, les amis, les sœurs et les frères de Jésus le Christ, de reconnaître et de recevoir les signes de son amour, de sa mort et de son relèvement, de sa promesse et de son royaume. C'est bon de laisser venir l'Esprit-Saint pour que dans ce moment d'assemblée, nous recevions chacun et tous ensemble la vie qui vient de Dieu. C'est bon de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Amen. Et nous restons debout pour chanter au 4101, page 560, le cantique en entier, c'est-à-dire toutes les strophes, et ce sera pareil pour tous les chants d'aujourd'hui. 4105, page 4105, page 560.
Thank you.
invite à vous rasseoir. Et à vivre avec moi cette prière de conversion. Me voici, mon Créateur, notre Créateur, pour essayer de comprendre ta volonté qui deviendra notre liberté. Rends-moi aujourd'hui sensible à toutes les grâces dont j'ai besoin. Tu vois ma faiblesse, ne me laisse pas seul. Aide-moi à t'aimer dans tout ce qui se présentera à moi aujourd'hui. Je vais t'offrir tout ce que je suis, tout ce que je ferai, tout ce que je supporterai. Je vais te l'offrir en union avec toi et j'espère que tu m'enverras la force de ton esprit. Amen. Tout en restant ainsi, nous prenons au 4103, page 562, la strophe numéro 1. Et ce cantique va nous accompagner un bref moment. 4103. Voici l'annonce du pardon. Je peux survivre sans parole, sans un geste. Je peux survivre sans surprise. Je peux survivre sans amour, sans valeur et même sans mémoire, sans doute. Mais je peux vivre avec ce pardon qui me bouleverse et me dévoile que j'étais digne d'être aimé. Amen. Vous êtes invités à vous relever pour chanter la strophe numéro 2 du 4103, toujours page 562.
Écoutons la volonté de Dieu dans la lettre de Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et nous chantons la troisième strophe du 4103.
ensemble la prière d'illumination sur la feuille. Nous prions. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions découvrir cette bonne nouvelle qui sera pour nous. Viens toi-même nous donner l'esprit dont nous avons besoin pour avancer sur notre route. Et nous lisons dans la première lettre de Jean au chapitre 3, les versets 14 à 22. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
Pour entrer dans ce passage de la première lettre de Jean, j'ai procédé de la façon avec laquelle certaines personnes se réveillent le matin. Elles se penchent sur leur lavabo et se jettent de l'eau sur la figure. J'ai effectivement procédé ainsi avec ce passage de la première lettre de Jean. Pourquoi ? Eh bien, pour ne pas tout de suite partir sur un mode réflexif, intello, comme on dit. Vous voyez ? Alors, je me suis jeté chacune des premières phrases de ce passage de la première lettre de Jean à la figure et j'ai observé mes réactions. Je vous invite à faire de même et à voir ce que cela vous fera. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alors d'abord, je vais passer sur quelque chose. À l'époque, le langage n'était pas inclusif, mais évidemment que les sœurs sont incluses. Frères, sœurs, il est important d'en rappeler la définition. Ce sont celles et ceux que nous n'avons pas choisis, qui sont de la même descendance que nous, même si nous ne le savons pas, et que nous sommes censés devoir aimer. Voilà pour la définition. Maintenant, je reviens à la phrase. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Alors, n'est-ce pas déjà une des phrases les plus fortes que vous ayez reçues, non pas depuis le début de votre existence, mais au moins depuis votre réveil? Je vous laisse un temps encore cheminé avec cette phrase. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons.
où l'on y entend que finalement croire au fait, par exemple, de passer de la mort à la vie, c'est-à-dire croire à la résurrection. On y entend que finalement croire, c'est savoir. Et ce savoir se fait par l'action d'aimer. Toutes ces dimensions, savoir, croire et aimer, qui sont habituellement disséminées dans des recoins différents de notre espace mental, dans notre logique, ici sont réunies dans cette phrase qui a sans doute été écrite intuitivement pour introduire un passage en entier sur lequel en général on passe très facilement parce que ça parle d'amour et que c'est sympa. Alors c'est sûr que si aujourd'hui je commençais ma théologie maintenant et ici avec ce texte, avec cette phrase, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons, eh bien j'aurais d'emblée acquis des pistes peu conventionnelles. Mais je ne suis pas assez réveillé. Je vais donc me prendre une nouvelle phrase à la figure. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ah, c'est déjà plus robuste. Je vous laisse cheminer. Donc déjà, après, par rapport à la première phrase, je ne peux même plus maintenant concevoir que j'aurais pu, sans aimer, sans pratiquer l'amour, passer quand même de la mort à la vie. Là, dans cette seconde phrase, ce n'est pas une question de savoir ou de ne pas savoir, c'est juste un fait. Si je n'aime pas, c'est bien que je suis et que je reste dans la mort, donc que je suis mort. Mais ce n'est pas fini. Non seulement je suis mort, mais phrase suivante, quiconque est, alors je suis du midi, donc est, se prononce de la même façon. Donc quiconque est, du verbe haïr, quiconque est son frère est un meurtrier. Ça évoque la radicalité de Jésus quand l'évangile de Matthieu rapporte ceci. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raca », qui est une insulte, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » ou « Imbécile » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Vous voyez l'accroissement. Mais ici, c'est encore plus fort. Cette recommandation de l'amour du frère est ici poussée à l'extrême. Quiconque est son frère est un meurtrier. Non seulement si je n'aime pas, je suis mort, mais en plus, je suis un assassin. Voilà ce que dit la première lettre de Jean aujourd'hui, texte du jour. Une sorte de zombie tueur, un être privé de son âme, qui n'est programmé que pour donner la mort dans laquelle il est enfermé. Voilà donc pour l'introduction de cette prédication. Pour, quand on aborde des textes bibliques qui parlent d'amour, s'éviter un peu l'angle purement sentimental. Ces trois phrases sont radicales. Si tu n'aimes pas, tu ne sers rien, tu es mort et tu commets des meurtres. C'est littéral dans le texte. Je sais désormais comment je vais mieux comprendre une bonne part de l'actualité de ceux qui commandent ou laissent faire des massacres pour des raisons officielles les plus diverses. Au-delà de toutes les raisons justifiantes, qui sont-ils ? Selon ce texte, ce seraient juste des morts qui tuent. Et cela expliquerait mieux pourquoi ces figures funestes et centrale et publique semble impérissable, indestructible, et pourquoi aussi elle suscite la crainte comme la mort suscite la crainte. C'est simplement qu'il y a, selon ce texte, de moins en moins de vie en eux et autour d'eux, voire plus du tout, car cette vie en eux ne peut pas résister à autant de vide d'amour. L'Évangile est peut-être naïf. Peut-être n'entend-il rien aux subtiles considérations géopolitiques, mais semble-t-il, cela lui est égal à l'Évangile, tant qu'il continuera à mettre au monde des personnes qui auront compris, que l'amour, c'est simplement une question de vie ou de mort, d'une part, et qu'aimer, au-delà de « c'est mieux », c'est d'abord un empêchement collectif de commettre des meurtres. Ce n'est pas tout de réaliser que les autres sont des frères et des sœurs, plutôt que rien, ou plutôt que des animaux dans le mauvais sens du terme, ou des objets. Mais ces frères et sœurs, déjà les voir en tant que tels, il s'agit en plus de les aimer. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont là. Et sinon quoi ? Sinon on est mort, selon ce texte. Et cet évangile naïf veut engendrer des personnes et ensuite des groupes, et pourquoi pas des vagues immenses et protestataires, mais en tous les cas pas des foules sentimentales qui vivront ça. On aime, on est vivant, et si cela nous devient presque égal de mourir, on ne veut plus participer au meurtre, et ce même si, paraît-il, c'est une caractéristique favorite de notre espèce et de notre histoire. J'espère vous avoir un peu réveillé. Mais je ne veux pas en rester là, puisqu'il réside dans ce passage de la première lettre de Jean d'autres pépites. Certains extraits de cette lettre nous poussent encore plus vers la matérialité et le concret du commandement d'amour, qui, je le redis, n'est pas un commandement sentimental. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'amour romantique, mais c'est une pratique identitaire et positionnante et militante pour les premiers croyants au Christ Jésus de cette époque. Et ça les distinguait de tout le monde, cet amour des frères et des sœurs, bien sûr. Petits enfants, nous dit l'apôtre écrivain, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Je suis très premier degré. Je vais donc cesser de dire « je t'aime », en tous les cas, je vais devoir cesser de le dire juste pour entendre le son de cette belle phrase et de ma voix. Mais je veux agir pour que ces mots correspondent au plus dur, au plus concret de la vérité. La vérité, vous savez, la vérité, celle qui est en dessous de tous les placos, tous les gravats, la vérité, celle qui apparaît quand on a tout déblayé. Toutes nos fumisteries, on les a déblayées, nos compromis et nos légendes, tout ce que nous croyons, que les autres croient de nous, alors que nous sommes les seuls à croire à nos sornettes. La vérité. L'action, la vérité. Action-vérité. À certains, cela fera penser à un jeu. Donc, j'ai eu du mal à viser statistiquement la possibilité de cette remarque aujourd'hui. À certains, cela fera penser à un jeu qui s'appelle Action-Vérité. Mais je ne renie pas ça. Peut-être que pour être un bon disciple, il faut entrer dans le jeu de l'Évangile. Et que fait-on dans un jeu ? Essentiellement, on agit. Et on agit selon les règles du jeu, qui représentent ici métaphoriquement la vérité. Ici, la règle, la vérité, c'est le commandement de l'amour, action. Alors pour finir cette prédication, je constate quand même que tout ça pourrait nous mettre un peu, et peut-être un peu trop, de pression. Vais-je arriver ne serait-ce qu'à aborder le début de ce que l'Évangile exige de moi avec son histoire de commandement d'amour des frères ? Ne devrais-je pas en fait renoncer d'emblée, m'arrêter là, et me remettre à simplement parler d'amour et dire que c'est bien d'aimer. C'est pourquoi je vais conclure par une de mes deux phrases préférées de tout l'évangile. La première, je vous la dis juste pour le plaisir, c'est cette phrase. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ça dit que ne faisons pas n'importe quoi de notre trésor, c'est simple. Il nous reste à identifier où est notre trésor, car selon cette phrase de Jésus qu'on trouve dans Matthieu ou dans Luc, il est fort possible que dans ce trésor que nous avons choisi, notre cœur y soit encalminé. Donc, attention au trésor qu'on se choisit. Mais ce n'est pas la phrase que je vais vous laisser particulièrement ce matin, mais ici, dans ce passage, c'est ma seconde phrase préférée de tout le Nouveau Testament, qui même, si elle sent un peu l'épitaphe, vous allez voir pourquoi, est tout de même une affirmation déterminante pour quand même oser tenter l'aventure évangélique. Vous l'avez vu venir, elle est sur votre feuille, c'est cette affirmation de l'apôtre et écrivain qui dit « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur ». Notez que ce n'est pas Dieu qui nous condamne, mais notre cœur. Voilà donc exprimer cette proposition pour aujourd'hui de cheminement spirituel et de réveil. Aimez ou vous êtes mort. Tu n'as ni le courage, ni la volonté, ni l'intelligence pour aimer. Tu n'as donc, selon toi, rien de ce que représente le cœur dans la mentalité biblique de ce temps. Alors, n'oublie pas que Dieu est plus grand que ton courage, que ta volonté ou que ton intelligence. Ah, très bien, donc je suis tranquille. Dieu pardonnera mon incompétence. C'est vrai, Dieu pardonne tout le temps toutes nos incompétences. Peut-être. Mais n'oublie quand même pas, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen.
Et vous pouvez vous lever et prendre la feuille de culte. Nous allons dire ensemble la confession de foi, qui est donc sur la feuille de culte. Je crois que l'Éternel parle aux humains par son Christ. Je crois que Jésus actualise la parole qui fait vivre. Lorsque j'ai peur, lorsque j'ai froid, je me souviens. La Bible proclame la promesse d'amour pour la vie du monde entier. Amen. Et nous prenons le cantique 41-08, page 572. 41-08, page 572.
soir. Que cette offrande soit bénie et que l'Évangile soit annoncé. Nous nous recueillons maintenant dans la prière d'intercession. Je vous invite à vous recueillir. Dieu de la promesse et de l'envoi, tu connais les difficultés de nos vies, tu connais nos déceptions, tu connais nos échecs, nos peurs, nos frilosités. Tu connais quand l'immobilisme et l'enlisement nous guettent. Alors, que ta parole vienne éveiller en nous le goût de nouveaux départs et qu'elle vienne éclairer notre nouveau chemin. Donne-nous le cœur d'aller de l'avant avec humilité. Accueillons les surprises du chemin et nous permettant de rester ouverts à l'inattendu des rencontres, puisque nous serons assurés de ta bienveillance et confiants dans tes bénédictions. Merci, notre Dieu, de nous accompagner pour cette heure si fragile et aussi pour cette heure de toute notre vie. Je vous invite maintenant à dire la prière qui finalement fait de nous des frères et des sœurs sans que nous nous en rendions compte, en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici maintenant le moment de se relever et de ressusciter, comme on traduit le grec. Le moment de l'exhortation et de la bénédiction tirée de la première lettre aux Thessaloniciens, par exemple, qui est une adresse qu'on reçoit. Car vous êtes tous fils et filles de la lumière du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Et puis dans Corinthiens, au reste, mes frères, réjouissez-vous, tendez à l'épanouissement. Encouragez-vous, soyez bien d'accord, vivez en paix, et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père
et que la consolation de l'Esprit-Saint soit avec vous tous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Nous pouvons nous rasseoir et écouter le dernier morceau de notre organiste du jour.